La rencontre a lieu dans la petite gare de Montoire, dans le Loir-et-Cher. Ce 24 octobre 1940, le vieux maréchal Pétain serre la main du chancelier allemand, Adolf Hitler. Les deux chefs d'État, entre guillemets, se saluent puis entament un entretien. Cette poignée de main n'est pas que symbolique. Elle confirme que la France s'apprête à collaborer avec l'ennemi. Cette entrevue, accompagnée des honneurs militaires, a lieu 4 mois seulement après l'invasion de l'Allemagne nazie en France. Mais qui est réellement Philippe Pétain, ce maréchal de France, héros de Verdun et de la Grande Guerre, devenu chef réactionnaire d'une France humiliée par l'occupation? À la libération, Philippe Pétain sera arrêté et condamné à mort. L'homme de Vichy finira ses jours 6 ans plus tard, en prison, à l'âge de 95 ans. Parlons d'histoire se penche sur la carrière militaire et politique d'un maréchal controversé, ainsi que sur ses idées, ses renoncements et sa trahison.
Parlons d'histoire, Dorian Demeus.
Pour évoquer le maréchal Pétain et comprendre pourquoi il hante encore aujourd'hui le débat politique français, je reçois Alain Collignon. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors vous êtes connu pour les auditeurs de Parlons d'Histoire. Vous êtes historien au CG Soma, le centre d'études et de documentation guerre et société contemporaine, en gros les archives de l'État, ainsi que spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Avant d'évoquer le héros de Verdun, attardons-nous un instant sur la personnalité de Philippe Pétain, né en 1856 dans le Pas-de-Calais. Que sait-on de son caractère, de sa jeunesse et quelque part de son parcours militaire ?
C'est un homme qui est né en 1856, sous le Second Empire, ce qui veut dire qu'en 1940, il a 84 ans. Il est encore plus vieux que Joe Biden, ce qui n'est pas peu dire. C'est quelqu'un qui a fait sa carrière constamment dans l'armée. Et comme bon nombre d'officiers de sa génération, il souhaitait la revanche de la défaite de 1870 face à l'Allemagne. C'est aussi quelqu'un qui a une carrière relativement plane, qui ne l'a pas menée dans les colonies. Il a fait toute sa carrière en France et en 1914, il a atteint le grade de colonel, ce qui est honorable, mais assez quelconque, assez médiocre. Néanmoins, il a enseigné à l'école de guerre. C'est quelqu'un d'intelligent, il a une intelligence normale, c'est un pince sans rire. C'est aussi un homme à femme. Il aime bien les femmes, il aime bien faire l'amour, il s'en vante, il se vantera jusqu'à Vichy, jusqu'en 42, de s'éveiller chaque matin avec son bâton de maréchal à la main. C'est lui qui le dit, en tout cas.
On retient de la Première Guerre mondiale la victoire de l'armée française à Verdun. Verdun, pour rappel, est l'une des batailles les plus importantes et meurtrières de l'histoire. Cette bataille devait permettre d'empêcher les troupes allemandes de monter sur Paris. Cette victoire cruciale sera due au génie de la stratégie militaire du général Philippe Pétain. Une bataille gagnée qui contribuera fortement à sa promotion au rang de maréchal de France, Alain.
Mais c'est surtout... Bon, certes, il a assumé la responsabilité de la bataille de Verdun, mais il n'y a pas joué sans doute le rôle le plus important sur le plan strictement stratégique. Il a assumé la relève des troupes par la voie sacrée, c'est-à-dire une noria de camions amenant constamment des renforts dans les moins mauvaises conditions possibles. C'est l'homme surtout qui est parvenu à apaiser ou à casser les mutineries de 1917 et qui a pris conscience que le feu tuait beaucoup et que la France, de 40 millions d'habitants, n'avait plus les moyens en 1917 de se payer de gigantesques sacrifices humains. Ce qu'il voulait faire, c'était permettre un relatif repos des troupes, une reconstitution des troupes, en attendant l'arrivée massive des Américains et des blindés. Et c'est parce qu'il a su maintenir l'armée française debout, lui épargner des flots de sang inutiles et la tenir prête pour le dernier coup avant la victoire qu'il est passé comparativement pour un génie militaire, ce qu'il n'était pas vraiment.
Et Les soldats retiennent justement le soutien moral que Pétain apporte à ses troupes coincées à Verdun. En gros, il met en place des rotations fréquentes, il améliore les conditions de vie dans les tranchées, il augmente les ravitaillements. Bref, à l'aide d'une grande propagande aussi, il façonne son image de compétence et de détermination.
Et il passe pour le père des soldats, le père des poilus, qui vont lui vouer une immense sympathie, car il a été économe de leur sang. Et ça, la masse des combattants de Verdun et de la Première Guerre mondiale ne l'oublieront pas. Il y aura en quelque sorte une génération du feu qui est une génération Pétain.
Alors, fort de cette réputation et de cette image dans l'entre-deux-guerres, Philippe Pétain poursuit sa carrière militaire et politique. Il sera notamment nommé ministre de la guerre en 1934.
Oui, sous un gouvernement d'Union nationale, de l'ex-président Doumergue, Gaston Doumergue. C'est un gouvernement qui était censé redresser la France après les émeutes du 6 février 1934, mais ne redressera guère la France et va surtout s'employer à effectuer des économies. Et sous la tutelle de Pétain, ministre de la guerre, les crédits militaires vont encore être rabotés au fil de l'année 1934, alors que le nazisme est déjà au pouvoir depuis plus d'une année en Allemagne et prépare la revanche.
Alors, une petite parenthèse privée, l'homme ne se remariera qu'à l'âge de 64 ans, mais avant tout pour éviter les ragots et donc éviter de perturber son parcours politique. Clairement, c'est un homme qui enchaîne les conquêtes et qui veut absolument plaire. Il a besoin d'être aimé. Plaire, c'est une obsession chez lui.
Il veut plaire aux femmes, il veut plaire aux soldats, et d'une certaine façon, il n'est pas mécontent qu'il plaise au peuple, car il est partout dignement accueilli, et comme il a une figure de bon pépère, avec une belle moustache blanche, il incarne, au regard de bon nombre de Français, le grand-père idéal. Et en même temps, pour les politiciens français, c'est un général, un maréchal loyal envers la République, à une époque où pas mal d'officiers supérieurs en France sont encore des monarchistes de regret, sinon des royalistes plus ou moins dissimulés.
Oui, et ce même jusqu'à la fin des années 30, le maréchal Pétain est perçu en France comme un légaliste, vous l'avez vu, un républicain, et donc pas du tout comme quelqu'un d'extrême droite, ou encore au moins comme un homme capable de s'emparer du pouvoir. Bref, à cette époque-là, il est respecté, mais est-ce qu'il avait un agenda caché ?
Je pense qu'il n'avait pas d'agenda caché. Il se serait contenté d'être flatté par les pouvoirs en place et d'être promené noblement et dignement de cérémonie patriotique en cérémonie patriotique. Certains dans son entourage pensaient qu'il pourrait jouer un grand rôle éventuellement en cas de crise majeure, mais lui-même ne s'y préparait pas vraiment. Il s'estimait au service de la France, mais il savait que lentement, il vieillissait, et à des intimes, il confiait que sur le plan militaire, il avait cessé d'évoluer à partir de 1925-1930. Les nouvelles techniques ne l'intéressaient pas et la défensive lui convenait très très bien. La ligne Maginot, pour lui, c'était le nec plus ultra de la stratégie militaire. Attendre l'ennemi sur des positions bien fortifiées et le casser, le briser à distance. Comme ça, on épargnerait le sang français et on aurait l'Allemagne à l'usure.
Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
On vient d'entendre le 17 juin 40, le maréchal Pétain annonce à la radio sa volonté d'armistice, ce qui va provoquer l'appel à la résistance, l'appel du 18 juin du général de Gaulle depuis Londres. La capitulation et la prise du pouvoir par Pétain, considérée par une partie de la France comme une haute trahison, va pousser le général de Gaulle à se positionner comme leader du véritable gouvernement français. Parlons d'histoire évoque en détail ce moment dans un podcast consacré à l'appel du 18 juin. Mais en résumé, Alain Collignon, quelle est la relation entre les deux hommes, Pétain-De Gaulle ?
À tout un temps, au début des années 20, De Gaulle passait pour le bon élève de Philippe Pétain. Il s'était placé dans l'écurie Pétain, qui fonctionnait un peu contre l'écurie Foch. Et De Gaulle avait acquis la confiance du maréchal au début des années 20. Il était même devenu le nègre, entre guillemets, le nègre littéraire de Philippe Pétain. C'est lui qui rédigeait ses discours et c'est lui qui rédigeait même une partie de ses ouvrages pour préparer l'accession du maréchal à l'Académie française. Et puis s'est passé quelque chose de terrible entre les deux hommes. De Gaulle a voulu voler de ses propres ailes au début des années 1930 et il a refusé à un moment donné que ce soit le maréchal qui signe le livre que Louis-Charles de Gaulle avait rédigé. Et une brouille mortelle entre les deux hommes à partir de ce moment-là. Une brouille d'écrivain, une brouille de littérateur. Pétain n'a pas pardonné l'orgueil de De Gaulle à De Gaulle, et De Gaulle estimait que Pétain était véritablement un vieux schnock à partir de ce moment-là. D'autant plus que les conceptions militaires des deux hommes étaient profondément différentes. Le maréchal en était resté à la défensive du style 14-18, mais comme je l'ai dit, sur un système fortificatif bétonné, tandis que De Gaulle voulait réhabiliter la guerre de mouvement grâce au moteur, grâce à la guerre des blindés.
Si on reprend le passage clair ici de juin 40, on a quand même l'impression d'avoir un résistant combatif d'une part, avec quelqu'un qui est prêt à collaborer avec l'ennemi. Donc là, on a deux visions de la France totalement différentes.
Je pense qu'en 1940, Pétain ne voulait pas véritablement collaborer rapidement avec l'ennemi, mais il y a été contraint par les nécessités du présent. En effet, la France est occupée aux 3/5 par une puissance totalitaire, expansionniste. L'Angleterre est calfeutrée dans son île, elle n'a pas les moyens militaires d'effectuer un débarquement. L'URSS, l'Union soviétique et les États-Unis sont neutres. L'Allemagne semble dominer le continent européen pour de très longues années. Et l'Angleterre est sans doute amenée à capituler à brève échéance. Ce qui fait que l'entourage de Pétain, avec l'aval de Pétain, et justement l'aval au premier chef, va pousser le maréchal dans la voie de la collaboration, afin que la France devienne, à terme, le brillant second, je mets ça entre guillemets évidemment, dans une Europe dominée pour longtemps par l'Allemagne nazie. Le brillant second en lieu et place de l'Italie fasciste. Et c'est ça le pari des collaborationnistes d'État du régime de Vichy, Laval d'abord, mais Pétain ensuite.
Quelques semaines après l'armistice, le maréchal Pétain entreprend un coup d'État légal, le 10 juillet 1940 donc, alors que le président Paul Reynaud venait de démissionner sur fond de défaite militaire face aux nazis et juste après l'armistice.
Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Venez à moi avec confiance. Tous unis, nous sortirons de la nuit où nous a plongé l'affreuse aventure.
De quoi provoquer une forme de guerre civile en pleine occupation allemande, en fait.
Mais la guerre civile ne s'est pas déclenchée immédiatement, tout simplement parce qu'en 1940, l'immense majorité de la population française est soulagée. L'armistice, donc une suspension d'armes, met fin à l'exode de millions de civils et va permettre le retour des exilés, va permettre le rétablissement en partie d'une situation socio-économique relativement normalisée, va mettre fin au combat, et l'immense majorité de la population française, sans doute plus de 90% des gens à ce moment-là, imagine qu'à terme, la guerre va être terminée et qu'on signera une paix qui enlèvera certaines provinces à la France, mais qui laissera le pays, pour l'essentiel, à nouveau debout, à nouveau en état de vivre, de subsister à l'ombre de l'aigle allemand. Ce n'est qu'au fil du temps, en voyant que l'Angleterre s'accroche, que l'Angleterre ne renonce pas au combat pour différentes raisons, que l'Allemagne s'enferme dans une guerre de longue durée en envahissant l'Union soviétique et qu'elle n'est pas capable de vaincre l'Union soviétique, que les États-Unis, à la fin, en décembre 1941, entrent dans la danse, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'en France, de plus en plus de gens se rendent compte que non seulement l'Allemagne nazie n'a pas remporté la guerre comme on le croyait en 1940, mais qu'elle peut même très bien la perdre. Mais les gens de Vichy ne font pas ce pari-là. L'essentiel des Vichysois, l'essentiel de l'appareil d'État groupé autour du maréchal, persiste et signe dans la politique de collaboration, même si à partir de 1942, les plus malins d'entre eux, les plus politiques d'entre eux, les plus intelligents d'entre eux, commencent à opter pour un profil bas. Seulement, voilà, en avril 1942, sentant le vent tourner, les Allemands imposent la présence, comme Premier ministre, comme président du Conseil, de Pierre Laval, qui est un de leurs affidés et en qui ils ont confiance. Pierre Laval, qui est un vieux républicain de la Troisième République, c'est pas un fasciste, mais c'est un opportuniste, qui depuis la fin des années 30 estime que c'est le fascisme qui va l'emporter en Europe et il faut s'adapter bon gré mal gré pour sauver ce qui peut être de la République en la musclant, en lui donnant une tournure autoritaire.
Au moment de prendre le pouvoir, Philippe Pétain est-il conscient de la violence intrinsèque du nazisme ?
Ah, très bonne question. Il est conscient du danger allemand. Il est conscient certainement de la nocivité de l'Allemagne, mais il pense toujours à une guerre de nation à nation, comme en 1914-1918. Il n'a sans doute pas perçu l'aspect criminogène, meurtrier du nazisme. Et il le percevra peu, il le percevra mal, au moins jusqu'en 1942. Mais c'est un homme de 84 ans, hein. C'est un homme de 84 ans. C'est un vieux conservateur, et là, je l'ai encore rendu plus conservateur. Il a un corpus d'idées qui le rattache à la droite extrême. On ne peut pas dire que c'est un fasciste. C'est un vieux maréchal autoritaire, un vieux maréchal scrongneux, qui de temps en temps, et surtout à partir de 42, a des pertes de mémoire. Il ne sait plus très bien où il est, il ne sait plus très bien où il se trouve.
Je le disais dans l'introduction, Pétain va rencontrer 4 mois plus tard, hein, donc au début de l'invasion, Adolf Hitler, lui serrer la main et s'entretenir avec donc le Führer.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le poids des souffrances de notre pays, améliorer le sort de nos prisonniers, atténuer la charge des frais d'occupation. Ainsi, pourrait être assouplie la ligne de démarcation et faciliter l'administration et le ravitaillement du territoire. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Elle doit comporter un effort patient et confiant. L'armistice au demeurant n'est pas la paix. La France est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du vainqueur. Du moins, reste-t-elle souveraine ?
Ce coup d'État s'accompagne d'une révolution nationale, Alain Collignon, autour du slogan « Travail, famille, patrie ». Alors, c'est un positionnement extrêmement conservateur qu'il impose à la France.
Qu'il impose à la France, mais il n'est pas le seul à l'imposer, hein, c'était dans l'air du temps. Une bonne partie de la droite française, une bonne partie de la mouvance catholique, de la mouvance chrétienne, pas toutes, étaient prête à se rallier à ce programme-là, avec en bon prime le retour à la terre et une forme de, allez, d'écologie autoritaire et passéiste. Mais pas que, parce qu'à côté, incontestablement, d'éléments conservateurs prônant le retour à la terre, à l'agriculture, aux communautés traditionnelles de base, aux communes, aux corporations. Il y a des technocrates présents à Vichy et qui veulent poursuivre l'industrialisation de la France, à l'accélérer, et si possible en accord avec l'Allemagne nazie, afin d'intégrer l'économie française dans ce que les nazis appellent le grand espace économique européen. Ce sont des modernistes, donc, des technocrates, et qui trouvent que le nazisme, les côtés technocratiques du nazisme, cela a du bon. Et ces gens-là ne se mettent pas véritablement aux avant-plans, mais ils permettent au régime de Vichy de durer, autant en tout cas que les partisans de Charles Maurras, les royalistes d'Action française ralliés, très partisans du retour à la terre, du retour des bonnes vieilles provinces de France. Et ces gens-là dureront à peu près jusqu'à la fin du régime de Vichy, étant entendu qu'à partir de 1943, plus vite que les autres, ils sentiront le vent tourner et ils opéreront une volte-face où ils se mettront à faire profil bas et lâcheront le régime de Vichy au fil de l'année 1943.
Je vous propose un extrait musical de l'époque. Écoutez bien les paroles.
Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment tes ans, à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, la patrie une seconde fois. Maréchal,
maréchal,
nous voilà.
Maréchal, nous voilà, c'était l'hymne du régime de Vichy dès 1942. Qu'est-ce qu'il faut retenir, selon vous, de cet hymne, cette propagande, quelque part, de Vichy?
Mais c'est le côté paternaliste et gnangnan du régime de Vichy. Et c'est quand même particulier qu'il ait fait de son hymne officieux, Maréchal, nous voilà, une sorte de mantra où on était prié de vénérer le maréchal en tant que sauveur, sauveur de la France. C'est l'aspect christique, entre guillemets, de la politique française qui réapparaît assez régulièrement dans les moments de crise existentielle profonde. Et le bon peuple de France est prié de se tourner vers ce sauveur-là, à ce moment-là. Et finalement, d'un point sur le plan extérieur, il s'approprie assez bien avec l'image que l'on se fait du sauveur à l'aune de 1940. Un bon vieux militaire, donc un homme viril, un bon vieux grand-père, et qui considère les Français comme ses enfants, ou plutôt ses petits-enfants, mais il est entendu que les petits-enfants sont priés d'obéir au maréchal ou à ceux qui parlent en son nom, les ministres, le premier ministre, le président du conseil, Laval au premier chef, les préfets, les sous-préfets et les officiers de police.
Qui dit collaboration dit déportation des Juifs vers les camps de concentration et d'extermination. Vichy a pleinement collaboré avec les nazis. Malgré des tentatives de certains de réhabiliter le maréchal Pétain, la responsabilité criminelle du régime qu'il a mis en place est considérable et indiscutable. Il a même fait plus, en fait, que les Allemands lui demandaient.
Il a fait un petit peu plus dans la définition du Juif. Il est allé plus loin que ce que les Allemands demandaient et surtout, le régime de Vichy est allé au-devant du désir des Allemands, car la première loi antisémite d'octobre 1940, concoctée par Vichy, n'avait pas été demandée à ce moment-là par les nazis. Sans doute que ça allait suivre, mais le fait est que Vichy est allé au-devant du désir des nazis. Mais à ce moment-là, évidemment, le régime de Vichy, Pétain en tête, ne pense pas à exterminer les Juifs.
Qu'il est viscéralement antisémite, Philippe Pétain ?
Il ne doit pas aimer beaucoup les Juifs, mais il n'est pas le seul à ce moment-là.
Elle est après déjà aveuglée par
son... Non, je ne pense pas. Les Juifs, pour lui, ce sont des métèques, des sortes de métèques. Pas vraiment de bons Français, sauf les Juifs de vieille extraction, les Juifs qui étaient déjà présents en France de son temps et sous l'Empire napoléonien. Pour ceux-là, les bons Israélites français, ils peuvent rester. Et s'ils ont fait la guerre de 14, c'est encore mieux, parce qu'ils conserveront leurs droits de citoyens français.
Mais il n'a jamais mis des bâtons dans les roues de Pierre Laval ou du chef de la police parisienne René Bousquet, qui est l'un des grands responsables de la rafle.
Je dirais pas vraiment. Il a dit amen pour les deux législations antisémites, celle d'octobre 40 et de juin 41. Il a dit amen. Il ne s'est pas opposé à la déportation des Juifs étrangers et au rafle du Vélodrome d'hiver en juillet 1942. Ce n'est qu'à partir de 1943 qu'avec Laval, il s'est opposé à la dénaturalisation des Juifs à partir de 1927, je pense. Donc tous les Juifs présents en France et naturalisés avant 1927 auraient dû être dénaturalisés pour permettre leur déportation. D'une certaine façon, le régime de Vichy a voulu protéger, je mets protégé entre guillemets, les Juifs français en abandonnant tous les éléments étrangers qui s'étaient réfugiés en France depuis les années 30.
En 1942, lorsque l'Allemagne envahit la France non occupée, Philippe Pétain, qui se dit pourtant légaliste, ne démissionne pas, il reste au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui le motive ? Est-ce la vanité, le goût du pouvoir ?
C'est possible. Plusieurs membres de son entourage, à ce moment-là, l'ont supplié de grimper dans un avion et de gagner Alger. Dans les territoires français d'Afrique du Nord non occupés, afin de reprendre la lutte contre les Allemands. S'il avait répondu à l'attente de ces gens-là, je pense que de Gaulle aurait été bien embêté, pour ne pas employer un terme plus fort. Parce qu'en novembre 1942, il y avait encore beaucoup de Français qui se sentaient plus ou moins pétinistes, même si Pétain avait déjà... le régime de Vichy avait déjà bien déçu. Mais quand même, ces mêmes Français pensaient que Pétain jouait double jeu et obéissait aux Allemands en traînant des pieds et en essayant de les rouler au maximum et en essayant de préserver au maximum ce qui pouvait l'être en France. Et donc que Pétain était en quelque sorte le bouclier des Français par rapport aux ultra-collaborationnistes de la région parisienne ou aux nazis radicaux qui peut-être... on en parlait, mais ce n'est pas véritablement vrai, qui peut-être voulait nommer un Gauleiter à la tête de la France et administrer la France comme la Pologne. Donc, Pétain, je pense que c'est par un mixte de goût du pouvoir et des honneurs qui vont avec, et le désir d'être fidèle à sa parole de 1940, de rester en France, de rester sur le territoire français pour protéger les Français. Encore une fois, je mets « protéger les Français » entre guillemets. Mais ce goût du pouvoir était un goût sénile du pouvoir. Et à partir du moment où le régime de Vichy perdait le contrôle de toutes ses colonies, perdait le contrôle de sa flotte, qui va se saborder à Toulon un petit peu plus tard, à la fin du mois de novembre 1942, perdait sa petite armée de l'armistice de 100 000 hommes, elle n'avait pratiquement plus de marge de manœuvre, elle était vouée à obéir aux Allemands et aux diktats collaborationnistes des Allemands.
À la fin de la guerre, Philippe Pétain sera lâché par Hitler et capturé par les Alliés à la frontière franco-suisse.
Il y a trois mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume.
Et voilà que l'heure du procès a sonné.
Pendant son procès, Pétain sera logé sur place, derrière ses fenêtres murées tout exprès, dans cette petite pièce installée pour lui. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris, va s'ouvrir un débat immense, lourd de conséquences. Un débat que le pays opprimé et trompé attendait depuis 5 ans.
Lors de son procès, Alain Collignon, qui va juger Philippe Pétain et que va plaider le maréchal pour sa défense ?
Une haute cour de justice va juger le maréchal Pétain à partir de l'été 1945. Et le crime majeur imputé à Vichy... c'est sa collaboration avec l'ennemi et la conclusion de l'armistice, car de Gaulle a fait remonter toute la responsabilité de Vichy à la conclusion de l'armistice demandé le 17 juin 1940. Car ainsi, tout ce qu'a fait Vichy pouvait être déclaré empreint de trahison et donc nul et non avenu. Et la déchéance de Vichy, la déchéance absolue de Vichy, confortait le pouvoir gaullien ou le pouvoir républicain né de la libération.
Il sera finalement condamné à mort pour haute trahison, une peine vite commuée en détention à perpétuité en raison de son âge avancé, mais aussi pour son statut de héros de Verdun. C'est évidemment un vieillard qui croupira en prison sur l'île Dieu, du côté de la côte atlantique. Il décédera à l'âge de 95 ans.
Ce qui est un bel âge, et les conditions de détention... pour n'être pas optimal, n'égalait pas du tout celle d'un camp de concentration. Sauf dans les premiers moments de sa détention, en 1945, où c'était assez pénible. Mais il ne faut pas oublier non plus dans quel état se trouvait la France de 1945. Et on ne peut pas dire qu'on a laissé le maréchal mourir de faim. Il a toujours été... très convenablement alimenté et honorablement soigné.
L'enlèvement de son cercueil déterré en pleine nuit sur l'île Dieu, dans son village natal, va défrayer la chronique. Alors, que sait-on sur les motivations des auteurs de cette profanation, Alain ?
Mais c'était en fait des militants d'extrême droite, assez bébêtes, et qui n'avaient toujours pas digéré le fait que le maréchal, du moins le corps du maréchal, ne puisse... pas être transporté solennellement à Verdun pour reposer au milieu de ses soldats.
C'était son rêve, hein, d'être enterré à Verdun.
Sans doute, ça peut se concevoir. Mais ces militants d'extrême droite ont en quelque sorte voulu réaliser son rêve et sans demander la permission à personne, ils ont en quelque sorte kidnappé le maréchal, ou plutôt enlevé le corps du maréchal, en voiture, après avoir, somme toute, violé son tombeau. Et ils ont transporté le corps dans des circonstances un petit peu abracadabrantesques, comme aurait dit Chirac. Et je pense qu'on a retrouvé le corps après quelques jours dans un garage. Les militants d'extrême droite ont été arrêtés et le maréchal a regagné ses pénates de l'Île-Dieu.
Pourquoi le cap Pétain hante-t-il encore et toujours la société française ?
Parce que c'est... Pétain était en quelque sorte l'incarnation de toutes les faiblesses de la France et de toutes les hypocrisies du gouvernement français sous l'occupation allemande et de tous les mensonges qui ont fait tant de mal à la France au cours de ces années-là. Alors que Pétain voulait passer pour un rédempteur, il a surtout été le connétable du déclin, en quelque sorte.
Nombre d'historiens qualifient Philippe Pétain d'homme médiocre parce qu'il était incapable de décider et qu'il veut plaire à tout prix. Vous partagez ce constat ?
Il n'a pas toujours été un homme médiocre. Il est devenu un homme quelconque en vieillissant, mais qu'il idéait aussi au gouvernant français républicain de 1940 de refiler l'ardoise de la défaite à un vieillard de 84 ans qui commençait à témoigner de certains signes de sénilité.
Merci Alain Collignon pour votre participation à ce podcast consacré au maréchal Pétain. N'hésitez pas à partager, noter et commenter nos différents podcasts. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode de Parlons d'Histoire.
Parlons d'Histoire, Dorian Demeus.